à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Bonjour. C'est la rentrée sur Radio Clapas et c'est aussi la rentrée pour Wakadi, une émission sur l'actualité sociale. Cette année, on a décidé d'innover, on vous fait une rentrée à l'ancienne. Pétanque, cure thermale, déambulateur et sieste sont au menu de cette émission. Et oui, on va parler de la retraite.
Ils sont des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, on les laisse passer. Allez en avance, on va couvrir le Pérou.
On se colle à l'actualité et on va tenter de préciser ce débat. On va parler d'annuité, de décote, de mesure d'âge, de déficit record, de répartition et de capitalisation. Plusieurs émissions vont être consacrées à ce thème. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Marquet, un invité qui a quelque chose à dire, puisqu'il est économiste et en plus il est retraité. Je serai accompagné pendant cette heure pendant Séverine. Salut Séverine.
Salut.
Manu, bonjour Manu.
Oui,
et Boris.
Bonjour.
Et c'est Jean-Jacques Galade qui sont à la technique. Salut à vous les gars. Mais avant de commencer ce voyage et de voir ce qu'il reste à sauver, nous autorisons pour une fois une minute d'auto-promotion.
Et qui c'est qui dit du bien de Wakadi? Eh bien c'est Wakadi.
Auto-promo. Ouais.
À Wakadi, on prend notre temps pour creuser les sujets. Et quand les autres rentrent en septembre, nous, c'est en octobre qu'on se lance. Alors, comme on a raté la foire des associations, on va vous faire un petit coup de présentation. Wakadi, c'est un acronyme pour « on a quelque chose à dire ». Et nous, des choses à dire, on en a plein. Notre objectif, c'est faciliter la prise de parole publique du plus grand nombre de personnes, surtout les personnes dites « en difficulté ». On est persuadé que la radio est un formidable média, mais également un formidable outil pour faciliter l'expression de tous. Nouvelle saison, nouvelle tête, c'est Galade qui prend le relais de Capucine, partie vers de nouvelles horizons. Toute l'année, vous pouvez nous retrouver sur Clapas 93.5 et sur wakadi.free.fr. On commence l'émission.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Oui, alors ce soir, on a décidé de parler des retraites et avec nous, donc, on a Gilles Marquet qui est économiste, mais qui est aussi un des initiateurs de l'association Louise Michel. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots un peu de cette association qui est en train de naître sur Montpellier?
Oui, c'est une association nationale qui est déjà créée nationalement et on va créer une antenne à Montpellier. Pour résumer, on peut dire que nous partons du slogan altermondialiste qui est que notre monde est possible. Je pense dans la période, donc, on a vu beaucoup de mouvements sociaux, on a vu renaître beaucoup de militantisme et de mouvements de lutte par rapport à ce système. La question où nous sommes aujourd'hui arrivés, c'est quel autre monde est possible, mais lequel au juste? Et c'est cette question-là que nous essayons d'aborder, appuyée sur un mouvement social qui, bien heureusement, depuis 10 ans, a réussi à réexister. La société Louise Michel donc, se propose d'engager le débat général avec toutes les sensibilités qui sont dans le mouvement social, qui trouvent que ce système est effectivement invivable, qu'il faut en changer et en sortir, mais comment? Bon, il y a toute une tradition ouvrière à reprendre, à réfléchir. Il y a d'autres éléments qui sont aujourd'hui dans la balance. Il y a Marx, il y en a d'autres, il y a des anarchistes. Il y a beaucoup de pensées actuelles de radicalité de par rapport à ce que fait le mouvement social. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble et arriver à parler ensemble pour essayer d'inventer ce qui pourrait être l'émancipation du 21e siècle après avoir clairement critiqué celle qui a... essayer d'exister au XXe siècle.
Ben justement, en ce moment, la lutte des classes a l'air d'être carrément d'actualité, puisque depuis un mois, ça fait 9 jupetons, près de 9 millions de personnes qui ont battu le pavé pour dire non à une réforme, une contre-réforme des retraites. Et je crois même qu'à Wakadi, on a pris un peu des sons, une petite carte postale sonore de ces manifestations.
Sarko,
Jette-toi par la fenêtre, tu seras plus vite en bas. La 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 la. Sarko, jette-toi par la fenêtre, tu seras plus vite en bas. La 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 la. Fillon, jette-toi par la fenêtre, tu seras plus vite en bas.
Bonjour, je vois derrière une banderole les retraités de la FSU. Alors les retraités, ils manifestent pour la retraite, c'est ça?
Pour la consolidation de leur retraite qui est attaquée régulièrement par le pouvoir et aussi pour défendre la retraite afin que les générations qui nous suivent puissent partir après une longue carrière à 60 ans et profiter un peu de la vie ensuite.
Alors j'aimerais bien avoir des contre-arguments par rapport à ce que nous assène le gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre choix rapport à la situation économique, par rapport à la répartition.
On peut toujours raconter n'importe quoi. Quand on se refuse à prendre l'argent où il est, on vient de, il n'y a pas si longtemps, de donner des milliards et des milliards aux banques pour renflouer les méfaits de la crise économique que ces banques même avaient suscité. Alors je vois pas pourquoi on pourrait pas trouver l'argent pour les retraites.
Ça change pour la tapette, il va falloir préparer la révolte. Il ne suffira pas de manifester. On est là, on s'organise. Demande Élysée Combat. Combat ni à gauche ni à droite, combat communiste, demandez combat.
Ben, il se trouve qu'historiquement, Sarkozy profite de son passage au pouvoir pour faire un tournant, j'allais dire extraordinaire, hein, à la société, en s'attaquant à l'un des principaux acquis sociaux de la résistance, on va dire. Hein. Et là, il met vraiment le paquet, et nous avons l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, parce que la mobilisation est forte malgré tout, hein. Très forte malgré le bourrage de crâne, par exemple aujourd'hui où... Dès ce matin 7h, les journalistes annonçaient qu'il y avait moins de grévistes que la dernière fois. Alors, ils n'avaient aucun élément pour le faire, ni pour le dire. Non, la mobilisation est intéressante, mais elle ne peut pas s'arrêter ce soir en enroulant les drapeaux. Il faudrait véritablement continuer dès demain, d'ailleurs, sur les lieux de travail, en arrêtant le travail pour ceux qui peuvent le faire, en n'arrêtant pas le travail pour ceux qui n'ont pas les moyens de perdre une journée de travail supplémentaire ou plusieurs, mais en se battant jusqu'au bout. L'enjeu est trop important.
Éric Vert, jette-toi par la fenêtre, tu seras plus vite en bas. La 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 la. Éric Vert, jette-toi par la fenêtre, tu seras plus vite en bas.
Moi je l'ai fait là, mais j'ai mal au pied, je suis arrêtée. Mais s'ils refont un samedi, ça sera encore pire, je serai encore la première. Même mon jeune, comme là, bon, ben, il travaille, mais quand il va en avoir la semaine, il y en aura encore plus. C'est normal pour les jeunes, hein, parce que y a pas de la retraite, il n'y en a pas, il n'y en aura plus. Moi je touche une petite retraite de 672 euros. Alors avec ça, je vais loin. Hein. Et quand j'ai payé mon loyer, ben, qu'est-ce qui me reste? Je ne me demande rien. Hein. Vous essayez, hein? Vous ne l'avez pas encore, votre retraite, vous?
Pas encore, non.
Ben, hein, je vous dis merde, alors. Parce que, comme on dit, non, mais c'est vrai, regardez. C'est pour les petits-enfants. J'ai des petits-enfants, ils n'auront pas un bel avenir. Travailler plus pour gagner moins, c'est pas la peine, hein? Non?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résister?
Ben, comme ça, sans arrêt. On fait des grèves sans arrêt. C'est tout ce que je dis, moi. Parce qu'il faut battre, hein? On nous enlève tout ce que De Gaulle nous a donné et puis regardez. Non, c'est bien, on fait des grèves comme ça, au moins ça bouge.
Vous avez entendu toutes les chansons sur Eric Vert, par exemple?
Ouais, ouais.
Mon espoir dans Sarkozy, et ah, ce ouais, sera ouais. La galère.
Mieux le prendre comme ça, parce que
c'est là, vous je êtes mets mon espoir dans le Fillon. Je suis sûr de l'avoir dans le pion. Jusqu'au retrait total. Même général. Jusqu'au retrait total. Même général. Jusqu'au retrait total. Même général. Jusqu'au retrait total.
Enfin, s'ils veulent le retrait total, c'est que quelque part, cette contre-réforme, elle ne leur va pas. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette contre-réforme, cette réforme des retraites qui fait que les gens se mobilisent aussi nombreux dans la rue, qu'il faut faire des grèves, même des grèves générales, qui seraient quand même un fort moyen de pression du mouvement ouvrier?
Ah ben je crois qu'il y a plusieurs volets. Le premier volet qui commence maintenant à devenir évident, c'est que le dossier financier que monté par le gouvernement est fou de bout en bout, qu'il ne tient pas la route, que l'argument démographique est idiot, qu'il n'a aucun sens, puisque, comment dire, ça fait maintenant plus d'un siècle que l'espérance de vie augmente dans ce pays, dans l'ensemble des pays évolués. Et dans tous ces pays, cette augmentation d'espérance de vie s'accompagne historiquement, depuis un siècle, d'une diminution du temps de travail, et non pas d'une augmentation, parce que la productivité croît très vite aussi. Et donc, on peut travailler de moins en moins longtemps. Et c'est l'espérance de vie sert à gagner de la vie utile, de la vie hors du marché, hors des contraintes du travail pour l'ensemble de la population. Et le retournement actuel est historique, c'est-à-dire c'est un retournement réactionnaire qui met fin à plus d'un siècle d'évolution qui était jusqu'ici jugée normale, qui était qu'au fur et à mesure que la productivité augmentait, eh bien, les travailleurs en avaient des gains eux aussi sous forme de réduction du temps de travail. On est passé des 48 heures ou 50 heures du début du siècle aux 35 heures aujourd'hui, et de toutes les façons, le temps de travail a diminué, et aujourd'hui, donc, au lieu de diminuer le temps de travail sur la vie entière, on veut l'augmenter et prendre à rebours cet ensemble d'évolutions historiques, et il n'y a aucune raison objective à ça.
Il y a un argument sur la question de l'augmentation, de la réaugmentation du temps de travail, c'est que les salaires n'augmentent plus depuis un certain temps, quand même. C'est y compris dans la population, il y a plein de gens qui disent, mais oui, nous, finalement, 35 heures, on ne gagne pas assez, alors que historiquement, il y avait un processus qui faisait que les salaires quand même augmentaient.
Bien sûr. Et ce qu'on appelle la contre-révolution libérale, du moins dans nos langages, qui ne sont pas forcément ceux de la presse, qui dure maintenant depuis la fin des années 70, depuis 30 ans, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire, à partir du constat dans les années 70 qu'il commençait à y avoir une baisse des taux de profit réels, la solution a été non pas, comme c'est parfois le cas dans l'histoire du capitalisme, de trouver des nouveaux systèmes de production plus productifs, de refaire de la croissance. La solution, depuis 30 ans, a été de se battre contre le salaire et de ramener le salaire à des niveaux historiquement qu'il n'avait jamais connus par le bas. Dans le PIB, bon, on connaît tout ce débat qui a lieu maintenant depuis longtemps, mais qui est réel, bon, qui est que depuis 30 ans, le salaire a reculé dans le PIB. Effectivement, aujourd'hui...
C'est-à-dire, pour expliquer, vous pouvez expliquer précisément
ça. Ça veut dire que les salariés ne participent plus à la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'il y a des études de l'INSEE, que la presse ne sort pas beaucoup, mais qui existent, qui montrent que depuis les années 70, grosso modo, l'évolution du salaire est plate. En moyenne, parce que bien sûr, c'est des moyennes. Donc après, chacun a sa situation particulière par rapport à la moyenne. Mais la masse salariale, globalement, depuis 30 ans, en réel, n'a pas augmenté. C'est-à-dire que toute la croissance est partie ailleurs. Il faut savoir où est cette ailleurs.
Est-ce que ça ne correspond pas aussi au fait aux concurrences entre pays sur les bas salaires, à la crise dont ils nous rabattent les oreilles depuis 2 ans maintenant?
Non, comme tu le dis, c'est depuis 2 ans, hein, c'est pas depuis 30
mais,
ans.
Mais la mondialisation, alors tous dès qu'ils sont pris, ils disent ah oui, mais là, aujourd'hui, on n'est pas tout seul,
on est un village, concurrence est rude.
Voilà, il y a toute la rhétorique.
Donc est-ce que c'est pas des choses qui comptent? Est-ce que ça aussi, c'est un argument qui est fallacieux?
Elles disent que quand dans un monde qui est voué à la concurrence et dont la logique politique nous dit que plus il y a de concurrence, mieux c'est, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que la concurrence, au lieu de tirer vers le haut, tire vers le bas. Elle tire tout vers le bas. C'est toujours le plus mauvais qui gagne dans la concurrence. C'est celui qui paie le moins bien ses ouvriers qui gagne. C'est celui qui a les processus de travail les plus durs et les plus violents qui gagne dans la concurrence actuelle. Parce qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit mondial. Et le processus de concurrence aujourd'hui, qu'on nous présente toujours comme le progrès, c'est plus il y a de concurrence, mieux ça va, c'est le discours libéral. Eh bien, ce qu'on aperçoit aujourd'hui dans ce qui arrive à la mondialisation, c'est que la concurrence, c'est l'inverse. Ça tire vers le bas, ça tire vers des solutions les plus mauvaises possibles. Il faut être pire que le voisin, ce qu'ont fait les les Allemands, par exemple, ont encore plus massacré les salaires que nous. Et ils sont très bien aujourd'hui, ils sont mieux que nous, parce qu'ils ont plus massacré le salariat que nous encore, et nous déjà, on n'a pas été mauvais sur le sujet depuis 30 ans. Bien, donc ce discours-là est un peu insensé, il n'a pas de logique.
Ça, d'accord, mais si on ne faisait pas cette réforme, qu'on en faisait une autre, qui serait peut-être plus en faveur des retraités, des salariés, etc., est-ce qu'on ne serait pas du coup tout seul ?
Non, mais ça, c'est une vraie question. Voilà, ça, c'est une vraie question. Enfin, d'une part, sur les délocalisations, il y a quand même un très large pan qui est de la rhétorique ou de la propagande, comme on voudra. Il est vrai qu'il y a des délocalisations. Mais quand on prend aussi des études qui ne sont pas faites par des bolcheviks, qui sont faites par l'INSEE, on voit que, par exemple, sur nos 5 millions de chômeurs, quand même, aujourd'hui, avoués 4,5 millions pour l'INSEE, mettons 5 pour faire rond, et pour tenir compte de quelques trucs dont ils ne tiennent pas compte, bien... On nous dit que les délocalisations, après les études de l'INSEE, ça explique à peu près 10% de ce chômage-là. C'est pas rien, hein, ça fait 500 000 ou 600 000 chômeurs de moins s'il n'y avait pas les délocalisations. Mais enfin, quand même, il y en a 4,5 millions qui ne dépendent pas de ça, hein, qui dépendent d'autres choses, qui dépendent des politiques suivies et de la façon dont on gère en France la force de travail, la durée du travail, etc. Donc, il y a beaucoup de mayonnaise qui monte autour de ça, il y a une base réelle, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que ça n'existe pas, il y a des délocalisations, il y a aussi, d'ailleurs on vient d'avoir récemment des relocalisations, des gens qui sont partis, parce que quand on part dans un pays où les salaires sont 3 fois moindres, mais avec une productivité du travail qui est 5 fois moindre, on perd. Et au bout de 2 ans, on revient, parce qu'on ne paye pas de salaire, mais on ne produit rien.
Donc pour vous, quand ils disent que c'est la seule réforme possible, donc je pense qu'ils pensent au contexte européen, au contexte mondial, en disant qu'on ne peut pas aller à l'inverse de tous les partenaires européens, etc. Pour vous, quand ils disent que c'est la réforme avec un grand L, c'est-à-dire que ça induit le fait qu'il ne peut pas y en avoir d'autres, pour vous, c'est faux.
C'est faux, mais il y a une partie de vrai. C'est-à-dire que si on met en œuvre des solutions de répartition de richesses qui s'en prennent au capital, que ce soit en augmentant les salaires d'une façon ou d'une autre, ça c'est une autre discussion, on peut y revenir après, il y aura effectivement des problèmes de maintien d'un certain nombre de capitaux en France. Ça, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Hein, mais c'est, si vous voulez, c'est un peu le même problème que les 35 heures. J'ai l'air de passer du coq à l'âne, mais les 35 heures, c'était quoi ? C'était dans la première loi des 35 heures, c'est très important. Le PS lui-même disait, on va faire les 35 heures et il faudra... que les entreprises seront obligées par la loi d'embaucher à proportion, ou du moins au moins partiellement à proportion de la durée du temps de travail. Hein. C'était la première loi, puis on a dit on va discuter, on va aller dans la seconde loi. Tout ça avait disparu. Pourquoi ? Parce que si on veut diminuer le temps de travail, effectivement, il n'y a pas de 50 solutions. Il faut contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Il faut, parce que si on oblige l'entreprise à embaucher pour honorer les 35 heures et faire qu'il y ait effectivement des embauches à proportion de la diminution du temps de travail, il faut bien vérifier qu'ils ne débauchent pas le lendemain. C'est donc qu'il faut remettre en place un contrôle dans les entreprises. Il faut aller contre le droit de propriété absolue et le droit totalement incontrôlé des patrons sur les licenciements, l'emploi, etc. Il faut remettre en cause le droit de propriété. Et bien sur cette affaire-là, c'est pareil. Sur les 35 heures, c'est ça qui a échoué sur les 35 heures, qui fait que les 35 heures n'ont pas réussi. Et le PS n'a pas réussi parce que lui n'était pas prêt à mettre en cause le droit de propriété, parce que ça, c'est un affrontement social. Il faut le préparer et le tenir derrière. Hein. Il faut se mobiliser, mettre des lois, etc.
J'ai mal à faire le lien avec les retraites.
Mais là, c'est un peu pareil. Parce que si on dit, on va... prendre sur les profits, et donc les capitalistes vont partir. Bon, il y en a certains qui peuvent partir, ça ne nous fera pas beaucoup de mal. Mais enfin bon, il y a un problème effectivement de maîtrise du capital par le pays. Il faut effectivement remettre des contrôles. Il faut avoir un affrontement qui remet en cause le droit de propriété. Mais aujourd'hui, le faire seul paraît un peu fou, effectivement. Mais si on le fait dans le cadre de l'Europe, c'est beaucoup plus sensé, beaucoup plus possible. Et dire aujourd'hui que des exemples de mise en cause du droit de propriété et du droit incontrôlé de la propriété tel qu'il est aujourd'hui, sur les mouvements de capitaux, sur les mouvements de l'argent, sur les salaires, etc., ne serait pas possible. Dans le cadre de l'Europe, c'est possible. Et je pense que si ça se passait en France, il y aurait un effet d'exemplarité et qu'on pourrait effectivement arriver à une échelle comme celle de l'Europe à avoir des politiques beaucoup plus sensées sur ce sujet-là et beaucoup plus efficaces sans avoir sans arrêt, effectivement.
Il y a quand même une déclaration du président à l'ONU qui voulait faire participer les mouvements financiers donc ponctionner sur les mouvements financiers. Je crois qu'il a déclaré ça la semaine dernière, enfin, ou il y a quelques jours.
Il veut ponctionner, oui.
Mais
ponctionner
pour les retraites, ça paraît pas envisageable.
Il peut pas tout fonctionner pour lui, c'est pas possible. Mais n'empêche que quand on parle de redistribution des richesses, quand on parle d'essayer de faire autrement, après il y a des chiffres, et il y a des chiffres qui sont des fois compliqués à avoir en tête, parce qu'on parle de milliards, on parle de millions, on parle de milliers, et pour tout le monde c'est pas simple. Ça serait bien aussi d'avoir un petit peu des visions claires sur combien gagne le capital, combien gagne Madame Bettencourt ou autre, et c'est des fois pas simple.
Alors quelle est votre position ou votre sentiment par rapport à cette journée de grève?
Elle est mieux que le 7. Il y a beaucoup plus de monde que le 7 septembre dernier.
Et qu'est-ce que vous pensez des arguments donc, qui seraient qu'on ne peut pas faire autre chose que faire cette réforme-là?
C'est des menteurs.
Pardon?
C'est des menteurs.
Alors pourquoi?
Il suffit de prendre sur le capital. Oui, une taxe sur les...
stock options qu'on va rendre 15 milliards. On va rendre 15 milliards d'euros aux stock options. On va rendre 9
options aux riches.
Aux stock options, oui, c'est pas.
Non, non.
Comment que ça s'appelle?
Le bouclier fiscal.
Le bouclier fiscal, voilà. Et ils vont rendre 9 000 francs à L'Oréal.
30 millions à L'Oréal, Marcel. Tu dis des bêtises, là.
Non, on lui rend 30 millions, ben, c'est encore. Mais j'achète jamais L'Oréal, jamais. J'ai jamais acheté L'Oréal.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité.
Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Pas acheter L'Oréal, c'est bien parce que ça sert strictement à rien. Mais à part ça, c'est pas seulement sur les chiffres de Madame Bettencourt, pour aussi ébouriffant qu'il soit. L'équation est d'une simplicité absolue. Bon, quand on prend les comptes de la nation, comme on dit les économistes ou l'INSEE, on voit bien que depuis 30 ans, la part salariale dans le PIB, c'est-à-dire ce que gagnent les salariés, a diminué de 4 ou 5 points. Un point de PIB, le PIB, c'est 2 000 milliards, grosso modo, d'euros. Un point de PIB, c'est 20 milliards. 4 points, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc les salariés ont perdu à peu près un peu plus d'une centaine de milliards d'euros par rapport à ce qui devrait être le niveau normal de leur salaire par rapport à l'histoire. Et on trouve dans les comptes où sont passés ces points de PIB, les bénéfices, les dividendes distribués, c'est pas les profits, hein, c'est les dividendes distribués, la part des profits distribués aux actionnaires est passée de 3 à 9%. L'équation est limpide. Bien, effectivement, ce qui manque aux salariés, c'est les actionnaires qui l'ont gagné. Et c'est considérable. Hein. Là, on est de 3 à 9, 6 points de PIB. Bon, c'est multiplié par 10 milliards d'euros chaque fois. On voit bien que les masses en jeu dans cette affaire de retraite, qui sont de l'ordre de 30-40 milliards, hein, à l'échelon de 2050, qui manqueraient, sont très largement couvertes par ce passage de richesse entre une classe et une autre. Hein. C'est une passage
une
de richesse
entre les salariés et les actionnaires. Hein. Les salariés ne peuvent pas être aussi actionnaires.
Oui, ça, je sais, c'est un argument assez qu'on connaît, mais enfin, c'est quand même très marginal. Les salariés, quand on prend les chiffres, on trouve pas mal de salariés actionnaires parce qu'ils ont 3 actions de leur entreprise, parce que pour payer l'intéressement, l'entreprise les oblige à prendre des actions, à les paye en actions, c'est légal. Donc on trouve plein effectivement de salariés actionnaires, mais ils sont actionnaires de trois actions quelque part, ils n'ont aucune, comment dire, ils n'ont pas du tout une gestion d'actionnaire par rapport à ça. Donc il n'y a aucune confusion à faire. Les salariés ne sont pas actionnaires. Ils savent bien que ce qui les fait vivre, c'est leur salaire et ce n'est pas les actions que leur a distribuées l'entreprise au titre de l'intéressement.
Donc là, on parle de dizaines de milliards, de 100 milliards, donc des ordres de grandeur qui sont à peu près égaux à ceux du trou de la Sécu ou de ce qu'il faudrait pour renflouer les retraites. Mais il semble qu'il faille faire un effort pédagogique assez énorme parce que le message ne passe pas toujours, y compris au niveau des jeunes, sur pourquoi on lutte et quel est l'intérêt de ces manifestations sur les retraites et sur le partage des richesses, tout ça, quoi.
Alors aujourd'hui, vous savez, c'était une grosse journée de mobilisation contre la retraite. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette journée, vous ?
Et de toute façon, ça servira à rien parce qu'on n'a plus, les caisses sont vides, donc on n'aura pas de retraite. Donc ça servira à rien. On a beau manifester, il y a des manifestations toutes les semaines, ça sert à rien du tout.
Et vous avez quel âge, vous ?
20 ans.
Et alors pour vous, vous n'aurez pas de retraite ?
C'est pas grave.
Aujourd'hui ?
Oui, c'est pas grave, on a qu'à mettre des sous de côté. C'est nos grands-parents qui en ont profité, ils en ont trop profité. Maintenant, pour les générations futures, il n'y a plus rien.
Vous croyez qu'il n'y a aucun espoir de garder ça ?
Non, je pense pas. Je pense que
nous, on n'a pas le droit de faire la grève et qu'eux, ils se permettent de nous empêcher d'aller travailler.
Pourquoi vous n'avez pas le droit de faire la grève, vous ?
Moi, je suis dans la restauration, il n'y a pas de grève. Hein. Ah, si, ce soir, j'aimerais bien faire la grève au travail quand même.
Nous, on n'a pas le droit, nous, on est des vrais bosseurs. C'est ça, on n'est pas fonctionnaire, donc on n'a pas l'autorisation de grève. Si on dit à nos patrons qu'on est en grève, ils vont rigoler, on est viré le lendemain. Donc, on tient à nos boulots.
Alors on nous parle que les jeunes ne branlent rien, que le chômage en fait c'est une volonté délibérée des chômeurs de rien faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix de société qu'essayer de se mettre les uns contre les autres, les immigrés contre les Français, ceux qui travaillent contre les chômeurs? Est-ce qu'on n'aurait pas avec les retraites le moyen de trouver un autre choix de société?
La question des retraites touche en fait, hormis le dossier financier, je crois que ce dossier maintenant est un peu clarifié. Moi j'ai un peu l'impression qu'on est là-dessus dans la situation où on était sur le référendum constitutionnel. C'est-à-dire que l'opinion a compris que ce dossier financier était pipé et que les chiffres et les arguments avancés par la droite n'étaient pas les bons et qu'il y avait, en redistribuant les richesses, moyen effectivement de financer ces retraites de façon très claire. Mais c'est pour ça qu'il y a ces mobilisations qui tiennent. C'est un peu étonnant ce qu'on vit quand même. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, ça fait maintenant depuis le mois de mai, juin, même avant.
Avant, avril même.
Avril,
en même temps, c'est très difficile parce que quand on entend les gens qui avaient là... ils vous disent c'est inéluctable, c'est-à-dire que
il y a quand même
une force médiatique c'est-à-dire les contre-réformes ou les propositions de réformes autres que celles du gouvernement elles sont difficiles à appréhender parce qu'elles ne sont pas diffusées quoi, ou peu diffusées. C'est vrai que
Non, mais alors ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, je crois que le mouvement est fort parce qu'il a compris qu'il fallait refuser cette réforme et que c'était un mot d'ordre qui est de plus en plus clairement mis en avant le retrait de la réforme. Par contre, aujourd'hui, le mouvement, il n'est pas homogène sur qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, tout le monde a l'idée de base qu'il faut redistribuer les richesses, mais par où ça passe et comment on le fait.
Il y a une grosse bataille, ceux qui disent on peut taxer le capital et ceux qui disent on peut augmenter le salaire.
Mais c'est un peu les deux options. Bon, si on regarde aujourd'hui la façon dont fonctionne le système, il fonctionne sur deux éléments principaux qui, mis ensemble, font un cocktail qui est totalement indigeste, indigérable par le monde libéral. C'est la répartition, d'une part, et le salaire socialisé de l'autre. Quand on les tient ensemble, on fait quelque chose qui est totalement en dehors de la logique libérale, et je pense qu'on pourrait passer un peu de temps à essayer de le voir et de le montrer. Et c'est ça, bon, d'une part, c'est ça que le pouvoir actuel et la droite libérale veut détruire. Veut détruire ce cocktail explosif qui fait qu'aujourd'hui, en étant salarié, on touche des salaires sans travailler. On touche des salaires à tous égards, à tout moment sans travailler. On a droit à des services médicaux sans aucune mesure avec l'apport qu'on a fait au système. C'est-à-dire que quand on va se faire soigner, on ne vous demande pas en France qu'est-ce que vous avez comme compte en banque, ni si vous avez cotisé depuis combien de temps ou je ne sais pas quoi à la Sécu. Il y a une logique qui s'est mise en place en France où on construit un monde commun, une société autour du salaire. Et ça, pour les libéraux, c'est quelque chose qui est totalement inadmissible, philosophiquement impossible. Je pense qu'on peut revenir un peu là-dessus. Et je pense que ça explique la façon dont le monde libéral, depuis 30 ans, depuis De Gaulle, et on peut y revenir, les premières ordonnances, c'est 60, les années 60 et 67, il faut se souvenir que ce système-là était géré par les salariés depuis 1945. Les administrateurs salariés étaient majoritaires dans les caisses vieillesse, dans les caisses de sécurité sociale et élus par les salariés, désignés par les salariés tous les 3 ou 4 ans, je ne sais plus où juste. Et ça a été la première chose. De Gaulle a décidé en arrivant en 60, c'est une première ordonnance, que ces administrateurs salariés n'auraient plus de pouvoir. Et qu'il fallait leur enlever le pouvoir, parce qu'on était dans un système où effectivement se construisait quelque chose qui d'une part était aux mains des salariés et d'autre part était une négation du marché du travail. C'est ça que je voudrais essayer de montrer tout à l'heure, ou tout de suite si vous voulez.
Donc enfin ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi ils veulent tuer les retraites, et du coup on va peut-être comprendre pourquoi ont-ils tué Jaurès.
Il finissait en débutant les 12 mois, s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps on laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Au centre de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Donc là, avec la question de la retraite, se pose la question de la protection sociale. Et en fait, historiquement, c'est beaucoup posé la question de assurance ou protection sociale. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui a tranché, en fait?
Oh, ça c'est compliqué. Alors là, l'historique, effectivement, la bourgeoisie a toujours milité pour des systèmes d'assurance qui n'ont jamais pu exister historiquement parce que, en particulier au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les ouvriers, on leur proposait des systèmes d'assurance, mais ils n'avaient pas les moyens de cotiser, de payer des assurances en plus de leur vie normale. Et donc ces systèmes n'ont jamais marché, n'ont jamais fonctionné. Ce qui explique d'ailleurs un peu aussi...
Là, on parle à quelle époque?
Oh, c'est jusqu'à 1930, jusqu'à 1930-40. Et puis en 1945, bon, il y a le programme du CNR et la mise en œuvre de la sécurité sociale, de la socialité, etc. Mais ça faisait un siècle, grosso modo, que la question des retraites était en l'air. Elle était pour des raisons très objectives. C'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, l'espérance de vie est inférieure à 60 ans. Et en moyenne, ça veut dire que pour les ouvriers, elle est encore, les écarts sont au moins les mêmes que ce qu'on observe aujourd'hui entre les métiers difficiles, les ouvriers et les autres. Et donc, pour un ouvrier, la question de la retraite se posait guère. On mourait au travail, tout simplement. On mourait au service du patronat et la retraite n'existait à peu près pas parce que l'espérance de vie était trop courte par rapport à la vie de travail. Donc, la question des retraites se posait, mais elle n'était pas non plus une question fondamentale. Oui, elle est devenue...
Ça, c'est bien, ça écume les guerres.
Tout à fait, ça sert aussi de temps en temps. Et donc, la question a commencé à se poser réellement quand l'espérance de vie a commencé à déborder assez largement la période normale où on sent qu'on est capable de travailler, donc au-delà de 60 ans. Et donc aujourd'hui, c'est depuis le début du XXe siècle que l'espérance de vie augmente petit à petit. Bon, ça, elle augmente pour des raisons objectives de socialité, de médecine, etc. Bien bon. Mais elle augmente aussi parce que la charge de travail s'allège, jusqu'ici en tout cas. C'est ça que veut inverser la contre-réforme. Et on peut aussi bien dire aujourd'hui que
vous
si...
Vous appelez la contre-réforme, pour être clair, c'est le projet actuel.
C'est voilà, ce que Sarkozy appelle la réforme, en fait.
On peut tout aussi bien dire aujourd'hui que si l'espérance de vie augmente, c'est justement parce que depuis un siècle, le temps de travail diminue. Et le temps de travail contraint diminue en permanence. Alors, il diminue jamais sous l'impulsion de la droite. Hein. Le pas essentiel, c'est 36, c'est les 40 heures. Et ça a été obtenu de haute lutte, non pas par un programme électoral, mais bien par une grève générale sur le tas de 36. C'est ça qui a fait avancer à chaque fois. Et toutes les avancées sur ces points-là ont chaque fois été obtenues par des luttes ouvrières et ça n'a jamais été octroyé par la droite. Reste qu'on peut très bien aujourd'hui inverser totalement le raisonnement et dire si l'espérance de vie justement augmente depuis un siècle, c'est parce que la durée du travail contraint diminue continuellement depuis un siècle et que donc la durée de vie libérée de la soumission au travail, on peut penser effectivement que ça aide à vivre plutôt que de passer une vie entière soumise à des cadences et au monde du travail tel qu'on le voit aujourd'hui, qui s'est par ailleurs largement dégradé, c'est une autre question.
Après, pour parler que de la France, la situation aussi a changé. Il y a moins d'ouvriers, il y a moins de...
Oh, il y a moins d'ouvriers, oui.
La pénibilité n'est pas de la même nature. Enfin, oui. Voilà, ça a changé, quand même, les travaux physiques. Oui. Il n'y a plus les mines, il n'y a plus...
C'est vrai, mais on nourrit quand même beaucoup d'illusions sur l'état actuel des systèmes de production. Je pense que beaucoup de monde est persuadé que le taylorisme et le travail à la chaîne ont disparu, c'est faux. C'est faux. Et même y compris aujourd'hui, on voit dans le tertiaire
les centrales téléphoniques,
des systèmes qui se mettent en place, qui sont organisés sur le mode de la chaîne et du taylorisme dans le tertiaire. Effectivement. Bon. Et l'idée que le monde du travail s'est libéré de ces chaînes-là, du taylorisme, de la division à l'extrême du travail, etc., est en petite partie vrai, mais en grande partie faux. Et c'est pas parce qu'il y a moins d'ouvriers aujourd'hui qu'il y a moins de taylorisme. Il y en a dans le tertiaire très largement, dans les systèmes de production, de services, etc., qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, les chiffres de maladies professionnelles explosent aujourd'hui. Hein. Ils ont doublé, je pense, depuis 5 ans. Ils ont doublé depuis 5 ans et la question de la pathologie du travail dans son mode
actuel. Il y a pas de maladies aussi qui rentrent dans la classification des maladies professionnelles et qui explique aussi que les maladies ont doublé.
On peut le voir comme ça, mais on voit bien aujourd'hui.
Je dis juste que ça me paraissait normal.
C'est un argument statistique assez classique de dire effectivement. C'est comme les violences. On dit il y a plus de violence parce que les statistiques le suivent mieux et qu'on sait mieux aujourd'hui les comptabiliser. C'est un peu vrai, mais enfin quand même l'amiante, les maladies professionnelles. C'est des choses qui sont objectivement mesurables, qui se mesurent, et aujourd'hui, on constate, et en plus, il y a des nouveautés quand même dans ce domaine-là. Par exemple, des vagues de suicides dans les entreprises, c'est quand même des choses qui interrogent quand même, qui posent des questions, qui font effectivement que le sens de maladie a changé de sens. Mais ça veut dire que la pression psychologique sur les salariés aujourd'hui, sur les questions de productivité, est intense et qu'elle est aujourd'hui beaucoup plus grave qu'elle ne l'était, beaucoup plus difficile à supporter qu'elle ne l'était il y a encore 10
si
ou 15
je
ans.
Je me trompe, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que...
T'arrêtes.
Ouais, je suis trompé.
Mais tu t'es trompé, là.
C'est que à un moment donné, grosso modo, la société française donne l'illusion d'une progression sociale, d'une progression professionnelle, etc. Mais en sous-bassement, la lutte idéologique que voudrait le monde libéral, les grands chefs d'entreprise, etc., est toujours très active et que le débat sur les retraites, il se situe d'un point de vue idéologique, strictement. C'est-à-dire que. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est. Le projet de réforme, il se veut pas plus idéologique que pragmatique en réalité.
C'est-à-dire je crois que si on regarde,
est-ce que c'est faire reculer l'idée que la retraite ça serait du temps oisif au profit d'un temps de travail de vieux salariés qui seraient heureux. Voilà. C'est-à-dire cette espèce d'idéologie qu'on peut voir où on voit des reportages en Allemagne. Hans a 68 ans et il travaille comme employé. Voilà, il est super heureux.
Il est super heureux, content. Hein, il mange des bretzels et tout ça.
etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression que vous situez le débat sur vraiment ben voilà, une lutte des classes idéologiques, c'est-à-dire entre les gens qui seraient partisans du mouvement social et qui défilent dans les rues aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils sont tous dans quelque chose de très idéologique? Je ne sais pas. Et des hommes politiques, là, en l'occurrence de droite, qui font ce projet non pas parce qu'ils comptent sauver le système des retraites, etc., mais plus pour continuer à inséminer l'idée que la retraite, si elle ne sert pas à grand-chose,
c'est
et que le salariat devrait...
C'est voilà, du
c'est
temps perdu.
Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire, je me trompe?
Oui, moi je pense que le dossier financier il est bouclé. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on peut financer les retraites, c'est parfaitement clair. Simplement pour y arriver, probablement, il faut un affrontement social sérieux, parce que les patrons ne sont pas prêts à lâcher. Mais le débat, il n'est pas entre le gouvernement et nous, il est entre les patrons et les salariés. C'est là que ça se passe. Effectivement, il faut reprendre aux patrons des choses qu'ils ont prises aux salariés depuis 30 ans. Ça se compte en points de PIB, on l'a dit tout à l'heure, bon, j'y reviens pas. L'équation est parfaitement claire et limpide. Le second point qui est clair et limpide aussi, c'est que la réforme actuelle, et ça commence à se dire et à se savoir, y compris, j'ai encore entendu à la radio tout à l'heure, la réforme actuelle est un bricolage, une solutionne pas du tout.
Oui, certains disent que d'ici 2-3 ans, il y a le problème en l'état. Quoi.
Voilà, donc ça c'est un second volet du dossier, qui est que le dossier des retraites, regardons quand même, hein, ça c'est depuis 93 qu'on nous le ressort tous les 4 ans, hein, 93 à 97, 2007.
2010.
Tous les 3-4 ans, on nous le ressort.
T'as hein. bien travaillé ton...
Donc,
c'est comme les JO, tous les 4 ans.
Ou bien ce gouvernement est totalement inepte, la droite qui gouverne depuis ce temps ne comprend rien à rien et ne sait pas faire une réforme, ni même une contre-réforme, je ne le crois pas. Ou bien, effectivement, ce dossier sert périodiquement à rouvrir le débat et l'affrontement et à réouvrir l'agression contre les salariés pour les faire reculer toujours un peu plus par rapport aux acquis qu'ils ont gagnés de haute lutte depuis un demi-siècle, en tout cas au moins depuis 45.
Moi j'aimerais bien qu'on reprenne sur la question, vous avez parlé tout à l'heure par exemple de salaire socialisé, sur ces questions-là, c'est-à-dire idéologiquement, comment s'est positionné la retraite, notamment à partir de 45, cette idée de protection sociale.
Pour moi, c'est une question philosophique de fond. Qu'est-ce qui fait société entre nous? Et pour le dire, on peut revenir à quelque chose qui a l'air un peu, peut-être tout à fait à côté de la plaque, mais qui est en plein dans le sujet, qui est, souvenons-nous du suffrage censitaire. Le suffrage censitaire au XIXe siècle, hein, c'est-à-dire que tout le monde avait le droit de vote, uniquement les riches, ceux qui avaient de la propriété. Pourquoi? Que nous expliquaient les bourgeois à l'époque? Ils nous disaient, pour être citoyen et pouvoir voter, il faut être autonome. Il faut ne dépendre de personne. Il faut avoir son libre arbitre. Et ça... La seule ressource qui peut nous le donner, c'est la propriété. C'est la propriété qui nous rend autonomes. Et ce rôle de la propriété est central. Et dans la société libérale, ce qui fait société, c'est la propriété. C'est la propriété qui rend citoyen. C'est la propriété qui permet de participer à la société, d'être autonome, d'avoir son libre arbitre, de voter, etc. Et ce qui s'est passé depuis 1945, de façon assez empirique, parce que ce n'est pas un projet mûrement réfléchi, c'est qu'on a construit un système où ce qui fait société, ce n'est plus la propriété, elle n'est même plus nécessaire, c'est le salaire. C'est en étant salarié qu'on devient, qu'on fait du vivre ensemble. C'est en étant, en socialisant ensemble une partie de notre salaire, et une partie très importante, c'est 40-45% du salaire qui est socialisé tous les mois, de notre salaire à nous, eh bien, on fait société, et la précarité à laquelle est voué le salariat par le marché du travail, c'est à ça que ça sert, le marché du travail, ça sert à précariser les salariés et à les mettre en concurrence les uns par rapport aux autres. Eh bien, le salaire socialisé les fait échapper au moins partiellement à cette précarité. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous n'êtes pas à la rue. Si vous avez des congés, vous pouvez tous les ans, pendant un mois et demi, faire ce que vous voulez, payé par le patron. C'est le salaire socialisé, c'est les congés payés. Quand vous n'êtes pas là, on ne vous demande pas si vous avez cotisé au niveau où vont coûter vos soins. Ce qui est une logique libérale. Ce qui est une logique... Pardon ?
Non.
Je parle à mon salarié. Je lui dis que c'est faux.
Effectivement, c'est très dangereux, c'est très subversif comme discours. Mais ce que ça veut dire, c'est que le salaire socialisé, qui est au centre de la construction de la sécurité sociale, est devenu le vivre ensemble. Et que la propriété, on n'en a plus besoin. Ce n'est plus le critère de l'autonomie, c'est pas d'avoir de la propriété, c'est d'être salarié. Et si on est salarié aujourd'hui, quand on est malade, on n'est pas tout seul et on est soigné, on n'a pas besoin d'avoir recours à je ne sais quelle épargne ou à je ne sais quelle économie, on prend des congés aux frais du patron, et alors ça c'est vraiment le scandale suprême. À partir de 60 ans, on a un salaire à vie inconditionnel. Inconditionnel. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut revenir dessus. Dans le monde libéral, mais c'est un truc absolument affolant, ce truc-là. C'est quelque chose qui est totalement à l'encontre de la philosophie libérale. Je vous rappelle que quand je parle de libéralisme, j'adore parler de Mme Thatcher, qui est une pédagogue phénoménale du libéralisme. Un des mots-clés de Mme Thatcher, qui était en trois mots et qui dit tout, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. C'est-à-dire que le vivre ensemble, c'est chaque individu qui doit se le fabriquer. Et quand on parle de retraite, il faut que chaque individu retrouve, ça c'est la logique libérale de base, chaque individu retrouvera au moment où il prendra sa retraite ce qu'il a mis dans la cassette, ce qu'il a mis dans la cagnotte et pas plus. Et le système du salaire socialisé, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand vous prenez votre retraite, jusqu'ici, avant les contre-réformes, on vous calculait le niveau de votre retraite sur votre dernier salaire. Or, ce salaire a évolué en 30 ans ou 40 ans de salaire, de carrière. Pourquoi on fait ça? Parce que le salaire socialisé vous donne une participation à la richesse créée dans le pays et à son évolution, y compris à venir. Il a fallu que la droite a supprimé, je crois que c'est Seguin qui a fait ça il y a longtemps, qui mène la bataille. La droite a supprimé l'indexation des pensions sur les salaires, c'était ça la base.
93 aussi.
Voilà, ouais. Ça veut dire que le salaire, quand vous êtes retraité, dans ce système-là, vous continuez de toucher un salaire, et ce salaire évolue avec la richesse nationale comme les autres salaires. C'est ça que le bon
salaire. Il n'y a pas de déconnexion entre les salaires.
Ça a été défait en 93, où dorénavant les pensions sont ajustées uniquement sur l'inflation et pas sur l'évolution des salaires. Bien. Mais ça veut dire que ce système est effectivement un système qui constitue une sécurisation totale des individus, une socialisation des individus, un vivre ensemble complet qui permet d'affronter toutes les épreuves de la vie, disons, hein, depuis la maladie, tout ce qu'on voudra, la retraite, etc. Non pas sur la base de la propriété, mais sur la base du fait qu'on est salarié.
Mais alors, du coup,
ça, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement inintégrable, et c'est par la droite, je ne sais même pas parler de la peine de parler de libéraux, c'est la droite entière qui ne supporte pas ce genre de choses, parce qu'elle autonomise le salarié par rapport au marché du travail. Elle lui donne une marge, elle lui donne une marge de manœuvre, il n'est plus totalement dépendant du marché du travail. Et remarquons que, comment dire, il existe déjà 30% de salariés qui ne sont pas dans le marché du travail, c'est des fonctionnaires. Et c'est un modèle de gestion du salariat qui est intéressant pour l'avenir et pour nous. Quand on réfléchit, on parlait de la société Louise Michel, mais ce qui définit le salarié sur le marché du travail, c'est l'emploi, c'est pas lui. Ce qui définit son salaire, c'est l'emploi qu'il occupe. Et s'il quitte son emploi, il repart à zéro, il retrouvera un autre emploi qui aura un autre statut, un autre salaire, etc. Alors que dans la fonction publique, on détache
le travail
et le salarié. Le salarié est qualifié en tant que tel personnellement sur une qualification, c'est les grades de la fonction publique. Et puis il occupe n'importe quel emploi, c'est son grade qui compte. C'est, la société a reconnu une qualification. C'est le concours de la fonction publique par lequel la société reconnaît une qualification. Et à partir de là, le salarié ne dépend pas de l'emploi. C'est au contraire, y compris de la fonction publique, l'employeur qui est en charge de lui trouver l'emploi, qui doit lui proposer des emplois aux fonctionnaires une fois qu'il a été embauché. Et donc, on est dans un système où cette distinction entre le salaire d'une part, l'emploi et la qualification fait effectivement qu'on échappe totalement à la précarisation et à la dangerosité du marché du travail tel que l'éprouve aujourd'hui des millions de salariés. Ça, c'est instructif. Bon, alors d'une part, on comprend que c'est insupportable pour la droite et qu'il faut défaire ça et qu'elle s'y emploie depuis 30 ans et que dans les mesures aujourd'hui qui sont prises dans la contre-réforme, on lit encore ce souci permanent de détacher la retraite du salaire. Il faut absolument détacher la retraite du salaire. Ça, ils ont commencé avec la CSG, ça c'est Rocard qui nous a fait ce beau cadeau. Il permet de fiscaliser. Ça c'est de l'impôt. Or l'impôt, dans le droit français, tous les ans, le Parlement vote son affectation. Alors bon, la CSG, pour l'instant, elle sert aux retraites. Mais après tout, rien ne dit que le Parlement ne décidera pas l'an prochain qu'il faut s'en servir pour acheter je ne sais pas quoi.
Et alors du coup, là, on voit que, avec d'après ce que tu nous dis, ça expliquerait pourquoi la droite... Elle n'aime pas les fonctionnaires qui, eux, sont payés par rapport à leur qualification et pas par rapport à une certaine valeur qu'elle aurait sur le marché du travail. Mais on a l'impression un peu, ça fait un peu penser à d'autres sociétés quand tu dis que la protection sociale ou la retraite, c'est on paye en fonction, on contribue en fonction de ses moyens, donc c'est la cotisation sociale, ce que les patrons pourraient appeler les charges, et par contre on récupère en fonction de ses besoins.
Oui.
Ce qui est, du coup, ça semble à des sociétés qui ne sont pas du tout capitalistes.
Ben c'est le cas en particulier pour la santé. Sur la santé, ce qui se passe en termes économiques, c'est dans un monde géré par le marché, c'est totalement incompréhensible qu'on puisse, quand on est smicard ou chômeur, se faire soigner dans un hôpital avec des coûts qui peuvent être gigantesques, sans que ça pose aucun problème et que personne ne demande qu'il y ait équivalence entre ce qu'a cotisé la personne et ne cherche ça, c'est quelque chose qui est totalement en dehors de l'épure, du marché, de l'offre et de la demande, tout ce qu'on voudra, tout ce que prêche le libéralisme et l'économie de marché. Bon, ça veut dire qu'effectivement, on cotise selon ses moyens, à proportion de son salaire, et ensuite, quand on a des besoins, ils sont honorés au niveau des besoins, sans prendre en considération ce qui a été effectivement épargné réellement en termes de cotisation. Ce n'est pas une épargne, c'est une contribution sociale. Mais ce n'est pas une épargne au sens que veulent lui donner les libéraux. Or, les libéraux, ils veulent sortir de ça, effectivement. Ils veulent faire de la retraite, et c'est ce que font, au bout du compte, c'est ça qu'ils vont arriver au bout, je pense, ce qu'on appelle les comptes notionnels, c'est ça. Hein. Le compte notionnel, ça veut dire que le jour de votre retraite, on casse la tirelire, et vous avez droit à ce que vous avez mis dedans pendant votre vie de travail. Point. C'est tout. Et si vous n'avez pas mis grand-chose, eh bien, vous n'avez pas droit à grand-chose.
Il fallait économiser,
faire de l'épargne. Donc, la question n'est pas, comment dire, on peut très bien garder la répartition comme système, ce qui est le cas aujourd'hui. Ils ne mettent pas en cause ouvertement et frontalement la répartition.
Ouais, ils disent même que c'est la seule réforme pour conserver la répartition.
Voilà, ils disent ça, bon, ce qui est, ils s'emploient quand même très sérieusement à la tuer, parce que dans les réformes qu'ils font, aboutissent au fait que la répartition ne pourra plus financer réellement les retraites et que les retraites ont déjà perdu 15 à 20% depuis les premières contre-réformes depuis 10 ans. Et avec ce qui arrive aujourd'hui, on va continuer.
C'est-à-dire le montant des pensions ?
Le montant des pensions, bien sûr, a déjà diminué à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, les désindexations et tout ce qui a été mis en place. Et avec ce qui se met en place aujourd'hui, les décotes, etc., et l'allongement impossible de cette durée, puisqu'on sait bien que la plupart des travailleurs sont déjà hors travail à 58, à 57 ou 58 ans. Enfin bon, tout ça est connu, je ne reviens pas dessus. je pense que c'est une partie du dossier qui est maintenant connue.
Ouais, les gens maintenant savent que la pension vont diminuer avec voilà. Les réformes successives.
Forcément, les pensions vont diminuer. Ce qui fait que bon, les jeunes, d'une certaine façon, ont compris ça.
Et les pensions de réversion.
Oui, bon, ouais,
parce que
oui, enfin, beaucoup de choses vont diminuer. Toutes les pensions globalement.
Il pense d'un coup, on a trois quarts d'heure d'émission et il pense d'un coup.
Et du coup, je pense aux pensions de réversion.
C'est pour ça qu'il,
pour un départ à 67 ans avec une mort prématurée du salarié.
Oui, sachant que l'âge de bonne santé c'est 63-64 ans, c'est possible à 67 ans.
Les pensions de réversion vont aussi charger dans la même.
Oui, mais toutes les pensions vont diminuer de 15% avec les mesures qui sont prises, qui sont appliquées, va conduire effectivement à faire que les retraites par répartition vont devenir quelque chose qui ne sera pas suffisant pour
vivre. Je pense à ça parce
vivre.
Que vous disiez, ça paraît impensable pour le monde des libéraux de payer des retraites. Alors je me dis, de payer des pensions de réversion, je pense que c'est quelque chose qui...
Oui,
ça doit vraiment...
Ça va faire diminuer le nombre de meurtres de petits vieux. Parce que les vieilles n'auront plus intérêt à tuer leur mari puisque les pensions de réversion sont trop faibles.
Parce qu'il n'y a jamais des vieux qui tuent leur...
Non, ils n'ont pas le temps parce que l'âge de bonne santé, c'est 63-64 ans. Et quand à 67 ans, tu devras bosser encore, tu n'auras plus le temps de tuer ta femme. Mais alors donc, du coup, si on peut résumer les choses, c'est que quand on se bat sur la retraite, quand les gens manifestent contre la retraite, contrairement à ce que je dis Gérard Depardieu partout à Canal Plus ou autre, c'est pas un combat de vieil aigri ou de rabougri qui comprendra la vie, mais c'est
un projet de société.
Social.
C'est un projet de société qui est totalement antinomique avec le projet de société que mène depuis 30 ans la droite libérale. Et bon, c'est tout à fait fondamental. Et refuser cette réforme. D'une part, bon, il y a des motivations financières très claires, mais je pense que c'est très important aussi d'expliquer, de dire et de discuter autour de ce sujet-là. C'est un autre projet d'une autre société qui privilégie et qui laisse l'individu face à lui-même, qui nie tout système social, qui est la philosophie de base du libéralisme. Bon, je disais tout à l'heure, Madame Thatcher est une excellente pédagogue, mais la société n'existe pas. Tout ce qui vient de la société n'existe pas. Et les individus n'ont que ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que si vous êtes chômeur, c'est que vous l'avez un peu choisi. C'est ce que nous disent les économistes. Le chômage, aujourd'hui, c'est un discours... La plupart des chômeurs ont choisi d'être chômeurs parce que chacun se choisit, chacun est libre. La société n'existe pas. Il n'y a pas de situation sociale. Chacun se choisit. C'est du pur libéralisme.
Donc se battre pour les retraites, c'est se battre pour le progrès social.
On arrive à la fin de cette émission, en fait c'est pour ça qu'on entend la petite musique traditionnelle de Wakadi qui arrive. Gilles Marquet, on va vous remercier. On remercie, je vous rappelle qu'on est toujours sur Radio Clapas, c'est vrai qu'on l'a pas redit pendant toute l'émission.
Sur le 93.5.
93.5 Radio Clapas. Donc on vous remercie Gilles Marquet, merci. Vous pouvez nous interroger, poser des questions, on peut initier ça maintenant, nous envoyer des mails sur wakadi@free.fr, on vous répondra, on fera passer les questions à Gilles Marquet qui pourra vous répondre. On va pas encore faire de chat, mais on pourra initier
on
ça. Manu, t'es prêt à tenir un chat aussi?
Absolument pas.
Donc, il est pas très rigolo.
Vous pouvez nous écrire et réagir, soit sur le site de Radio Clapas, soit sur le site de Wakadi. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis et en rediffusion, eh bien, je sais pas trop quand, c'est vraiment la rentrée quoi. Voilà.
Un peu plus tard, ça dépendra de la grille.
Merci à tout le monde et on se retrouve bientôt.
À très bientôt et au 12 octobre très certainement.